Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse, sixième cassette, première face. Crutongo, K-R-U-T-O-N-G-O, et le malheur. Crutongo était chasseur. Son corps était de belle force et son cœur était bon. Son épouse, un soir de pluie, accoucha d'un garçon. L'enfant, à peine né, regarda autour de lui, soupira, puis gémit, puis mourut. Crutongo et sa femme en eurent tant de chagrin qu'ils restèrent longtemps sans plus savoir parler. Après un an, leur vint un deuxième garçon. Il ne fit que passer par notre monde. Il n'y demeura qu'une nuit, puis il reprit son chemin. Après encore un an, pour la troisième fois, l'épouse fut enceinte. Quand Crutongo le sut, il la prit dans ses bras et la berça en pleurant. Tandis qu'ils se tenaient ainsi agrippés l'un à l'autre, comme deux perdus, l'homme et la femme se demandaient « Vivra-t-il ?» Mais ils ne pouvaient rien dire, car la peur nouait leur gorge, et l'espoir aussi, qui est parfois pire que la peur. Le jour de la naissance de ce troisième enfant fut par malheur, comme les autres, un jour de deuil. Alors Crutongo dit à son épouse, « Ce pays ne nous aime pas, nous devons le quitter. » Ils firent leurs bagages et se mirent en route. Ils cheminèrent 4 semaines, sans guère de repos, franchirent de grands fleuves, des brousses, des marais. Ils arrivèrent enfin dans une plaine verte. Au fond de cette plaine était une forêt. Crutongo flaira l'air, examina le ciel, la forme des nuages, puis il hocha la tête et dit « Femme, vivons ici. » Il posa son sac et bâtit sa maison. Après 100 jours dans ce nouveau pays, il vit que le ventre de son épouse s'arrondissait encore. Il lui dit « Il nous faut de la viande, il nous faut du poisson. Femme, je pars en chasse. Si, avant mon retour, notre enfant sort de toi, tu devras le mettre au monde sans un gémissement. N'appelle personne à ton aide, surtout n'appelle pas, sinon notre malheur reviendrait aussitôt. » Son épouse promit. Il prit son arc, ses flèches, et, de grand matin, s'en alla. Quand le temps de l'enfantement fut venu, Crutongo était encore au-delà de la plaine et de la forêt. Il traquait du gibier le long d'une rivière. Son épouse se coucha dans la maison déserte. Elle se tint le ventre, elle serra les dents, le front ruisselant. Longtemps dans son cœur, elle appela son époux. Il ne l'entendit pas. Il cheminait au loin, l'œil à l'affût, dans les hautes herbes mouillées. Alors elle soupira, haleta et gémit. « Pauvre de moi, comment accoucher seule ?» À peine eut-elle dit ces mots, qu'un homme apparut près du lit. Cet être, en vérité, avait figure humaine, mais c'était un démon. « Femme, dit-il, je vais t'aider. » Il mit l'enfant au monde, puis il alluma du feu et fit bouillir des légumes. Quand la soupe fut cuite, « Femme, as-tu faim ?» Elle répondit que oui. Alors il dit encore, si tu veux manger, donne-moi ton fils. « Toi, je te reconnais, tu es notre malheur » cria-t-elle en serrant son enfant contre elle. « Va-t'en !» Le démon ricana. Il répondit, « Partir ? Pour aller où ? Je suis très bien ici. » Il mangea seul et s'installa. Il coucha par terre à la cuisine. Le lendemain, il fendit du bois et prépara un nouveau repas. « Tu n'auras rien, dit-il, pas la moindre bouchée. » Passèrent 4 jours, et 5 jours, et 6 jours. La femme peu à peu dépérit. Sa peau se tendit sur les os de son visage et ses yeux s'enfoncèrent sous le front. Son nourrisson se mit à gémir et pleurer contre son sein. Elle ne put l'apaiser. Elle n'avait plus de lait. Pas un instant, elle ne détourna son regard de la lucarne. suppliant dans son incessante prière son époux d'apparaître. Elle ne vit rien au loin que les nuages sur le chemin des airs. L'espoir l'abandonna. Or, ce matin-là, comme Crutongo avait fait halte sur la rive du fleuve pour écouter les bruits des herbes, un oiseau se posa sur le bout de sa lance et là, battant des ailes, il se mit à siffler « Vite, vite, vite !» L'homme leva le front. L'oiseau lui dit encore « Vite, vite, vite !» Le sang de Crutongo s'affola, lui noua la gorge, se mit à battre contre ses tempes. Il pensa « Ma femme est en danger !» Alors, en grande hâte, sans souci des canards sauvages qui fuyaient devant lui, il s'en retourna. Il traversa la forêt, agile et bondissant comme un cerf, parvint sur la vaste plaine, courut vers sa maison lointaine, enfin poussa la porte. Son épouse était assise dans un coin sombre avec son nourrisson. Elle était épuisée. Le démon, près du feu, buvait une écuelle de soupe. Il dit à Crutongo, « Bienvenue, chasseur. As-tu fait bon voyage ?» Crutongo lui répondit, « Le mal est dans ton œil. Sors de cette maison. »« Calme-toi, lui dit l'autre. Je m'en vais, je m'en vais. » Il trotta vers la lumière du jour. Avant d'être dehors, il avait disparu. Crutongo prit dans ses bras sa femme avec l'enfant et tous trois goûtèrent le bonheur des retrouvailles. « Je ne vous quitterai plus, dit-il. Désormais, je cultiverai la terre devant la porte. » Dès le prochain matin, il se mit au travail. Il piocha, défricha, brûla l'herbe, puis il dit à sa femme, « Demain, je sèmerai. » Or, à peine levé, à l'aube naissante, il vint au bord du champ et ne vit devant lui qu'un fouillis de buissons. En une seule nuit, tout était revenu. Broussailles, cailloux, fourrés, touffes d'épines. Misère, se dit-il. Ce démon de malheur s'acharne contre nous. Visible ou invisible, il nous harcèle et nous harcèlera sans cesse. Comment lui échapper? Il s'en fut visiter grand-mère, l'araignée, qui sait tout de la vie, qui sait tout de la mort et qui sait tout aussi de l'entre-vie et mort. Elle lui dit, Crutongo, mon fils, ton retour de la chasse a fait fuir le malheur. Il n'ose plus se risquer dans ta maison. C'est une bonne chose. Mais il connaît assez de tours et de maléfices pour t'empêcher de vivre en paix. Ainsi, tous les soirs, comme il l'a déjà fait, il viendra dans ton champ et par sa magie noire, il gâtera ton travail du jour. Or, ce malfaisant ne peut être vaincu en combat ordinaire. Sa puissance est trop grande. Tu devras donc ruser si tu veux t'en débarrasser. Crutongo, tu m'écoutes? Grand-mère, je t'écoute. Sculpte une statue de bois avant la nuit prochaine. Fais en sorte qu'elle ressemble à ton épouse. Quel est son visage et sa taille? La courbe de ses hanches, la rondeur de ses seins, et qu'elle porte aussi un enfant dans ses bras. Quand elle sera faite, tu la planteras au milieu de ton champ, tu enduiras son corps de colle d'EVA, puis tu te cacheras et tu regarderas. As-tu compris? Grand-mère, j'ai compris. Il fit tout exactement. Comme le soir tombait, il planta la statue bien droite sous la lune. Il la badigeonna de colle d'EVA, il alla se cacher. Alors, l'esprit mauvais apparut sur le chemin. Dès qu'il vit la statue, il courut devant elle. « Bonsoir, bonne femme, dit-il. Ton mari, le chasseur, t'a laissé seul? Tu m'en vois content, te voilà tout à moi. » Il la saisit au cou. Sa main droite resta collée. « Bougresse, dit-il, tu résistes à ton maître ?» Sa main gauche griffa la figure impassible. Il cria « Lâche-moi !» Il lança son pied droit contre la jambe de la statue, puis son pied gauche, cogna des genoux, du ventre, du front. Il se trouva bientôt collé de haut en bas contre la fausse femme. Il se débattit, cracha, hurla. Alors Crutongo se dressa et sortit de sa cachette en brandissant sa longue lance. « Hé, démon ! » cria-t-il, « nous sommes fatigués de toi. Sais-tu cela ?»« Je m'en vais, chasseur, je m'en vais !» gémit l'autre, agité de soubresauts grotesques. Crutongo tourna autour de lui, puis il dit en riant, « Est-ce donc ce pantin qui nous a fait si mal ?» Il leva sa lance et d'un coup le tua. De ce jour, il vécut heureux avec sa femme. Quand il entra dans la vieillesse, autour de sa maison était un grand village, peuplé de ses fils et de ses filles, tous pères vénérables et mères de famille. Et quand il mourut, ses ancêtres l'accueillirent dans l'autre monde avec fierté, car il avait fait ce qu'aucun d'eux n'avait su faire, il avait vaincu le malheur. La fête de Moussa, M-O-U-2-S-A. Dix filles allaient cueillir des figues. Elles riaient, chantaient, rêvaient. Toutes pensaient au soir prochain. Ce soir-là, le plus beau des soirs, Moussa, le fier, le fils du roi, offrait une fête à son peuple. Toutes iraient en pagne fin, chacune espérait que Moussa prendrait sa main parmi les autres et la choisirait pour épouse. À l'ombre bleue du grand figuier, par jeu moqueur, poussant du coude la plus jeune, « Tu ramasses des figues mûres ?» lui dirent-elles. « Il ne faut pas, les figues vertes sont meilleures. » La naïve les crut, laissa là les fruits mûrs, ramassa les fruits verts et s'en revint chez elle. « Hola, hola !» lui dit sa mère, « c'est là toute ta provision ? Décidément, tu es trop sotte. Je veux ici, avant ce soir, un plein panier de figues mûres. Sinon, tu n'auras pas ton pagne et adieu la fête de Moussa. » En courant et pleurant, la figue retourna par le sentier de brousse au figuier solitaire, et là, les mains tendues, elle chanta ce chant. Figuier, me faut des figues pour un pagne pour la fête de Moussa, Dieu, pourvu que j'y sois avant qu'elle s'achève. Le figuier répondit, moi, ma fille, me faut de la bouse de vache. Va m'en chercher, reviens, et je te donnerai ce qu'il faut à ta mère. La fille courut à l'enclos des bêtes. Aux vaches, elle chanta. Vache, me faut des bouses pour des figues pour un pagne pour la fête de Moussa. Dieu, pourvu que j'y sois avant qu'elle s'achève. Les vaches répondirent. Fille, nous faut de l'herbe et des pousses de jonc. Va nous en ramasser. Et nous te donnerons ce qu'il faut au figuier. La fille s'en alla, courut encore et parvint au grand champ. Grand champ, me faut de l'herbe pour des bouses pour des figues pour un pagne pour la fête de Moussa. Dieu, pourvu que j'y sois avant qu'elle s'achève. Les herbes répondirent. Fille, il nous faut de l'eau de bruine fine. Va prier Dieu là-haut. Et nous te donnerons ce qu'il faut à tes vaches. Et la fille chercha l'arbre qui touche au ciel. Il était loin. Elle grimpa sur sa plus haute branche. Dieu, me faut de la bruine pour l'herbe, de l'herbe pour les bouses pour les figues, des figues pour un pagne pour la fête de Moussa. Dieu, pourvu que j'y sois avant qu'elle s'achève. Dieu ne demanda rien. Il lui donna la bruine, le champ lui donna l'herbe, et les vaches leur bouse et le figuier ses fruits. Elle revint chez elle avec un grand panier empli de figues mûres. Sa mère s'en alla derrière la maison, trouva au poulailler un haillon poussiéreux. « Fille, voici ton pagne. Il pue, emporte-le, et va donc à la fête de Moussa. » La fille s'en alla, les yeux mouillés de larmes et la bouche tremblante. Au bord de son chemin, elle aperçut bientôt une hutte bancale. une vieille était là, assise près du seuil. Comme venait la fille, elle tendit la jambe au travers du sentier. « Vieille mère, pardon, laisse-moi le passage. »«
Où vas-tu donc, petite ?»«
À la fête du soir, la fête de Moussa. »«
Va ton chemin, petite, va. »
À peine eut-elle fait 10 pas sur le sentier.
« Hé, petite, reviens !»
La fille s'en revint devant la pauvre hutte.
« Attise un peu mon feu, je crains qu'il ne s'éteigne. »
La fille remua les braises, mit de la paille entre les bûches, et le bois crépita et les flammes jaillirent. Comme elle s'en allait, la jambe de la vieille à nouveau s'allongea au travers du sentier. « Vieille mère, pardon, laisse-moi le passage. Va ton chemin, petite, va. » Elle fit 30 pas.
« Hé, hey, petite, reviens !»
La fille s'en revint, comme son cœur pesait dans sa poitrine. « Fais cuire un bol de mil, j'ai faim !» lui dit la vieille. La fille mit à cuire un bol de mil pilé. À l'instant de partir, « Vieille mère, pardon, laisse-moi le passage. Va ton chemin, petite, va !» À peine eut-elle fait 50 pas sur le sentier.
« Hé, petite !»
Sans un mot, tête basse, la fille s'en revint.
« Va donc puiser de l'eau et mets-la sur le feu dans la grande bassine. Quand elle sera chaude, tu prendras la serviette blanche et tu me laveras le dos de haut en bas. »
La fille puisa l'eau, la chauffa, la versa sur le dos de la vieille, prit la serviette blanche et se mit à frotter. Or, tandis qu'elle s'échinait, le vieux dos se fendit comme une figue mûre.
« Petite, que vois-tu ? »
« Je vois un trou profond entre tes deux épaules. »«
Petite, que vois-tu ? Dis, que vois-tu encore ? » ?»«
Je vois au fond du trou des habits magnifiques. » »«
Choisis ceux qui te plaisent et pars-toi. »«
Il faut que tu sois belle à la fête du soir, la fête de Moussa. »
La fille s'habilla et partit en riant, courut jusqu'à la fête. Et quand elle eut paru, les musiciens se turent et les gens ébahis dirent « Quelle beauté !»
Et le prince Moussa eut les yeux emplis d'elle. Alors il s'avança entre toutes les filles et la prit par la main et la prit pour épouse. Et le comte s'en fut. Où est-il aujourd'hui ? Dis-moi de ses nouvelles.
Pourquoi Dieu s'éloigna du monde.
Au premier temps, le ciel était posé sur la cime des arbres. Le Créateur venait de bâtir son royaume et tout y était neuf, simple, aimable à vivre. En ces temps-là, les tornades ne ravageaient pas les maisons des hommes. Elles n'emplissaient pas leurs bouches de sable. Elles ne les emportaient pas au loin, par-dessus les murs, bras et jambes tournoyants. En ces temps-là, les pires bourrasques étaient des souffles revigorants et les calebasses, à peine vidées, se remplissaient de nourritures succulentes et légères. Et les moustiques étaient nos petits frères et les hyènes couchaient à l'ombre des enfants. En ces temps-là, les hommes étaient tous des seigneurs, car tous avaient ces vertus qui font les vrais seigneurs. La générosité, l'œil franc et la paix du cœur. Et les femmes étaient rieuses, terribles, douces, folles aussi, sans cesse poussées par leur témérité, hors du tout à fait droit, du tout à fait visible, du tout à fait dans l'ordre. En ce temps-là, 3 d'entre elles étaient amoureuses d'un homme. La première courait pour lui aux sources les plus fraîches. La deuxième rêvait de lui offrir un fils vigoureux et parfumé comme le vent du ciel. La troisième errait dans son propre cœur et ne savait rien dire tant l'amour la poignait. En vérité, elle aurait voulu prendre le monde dans ses mains et l'effeuiller comme une rose sur la bouche de son époux. Un jour, comme elle longeait un champ de mil, rêvant à l'offrande impossible, elle détacha un grain
d'une tige penchée, le fendit d'un coup d'ongle, respira son parfum. Alors le désir lui vint d'offrir au bien-aimé une saveur nouvelle. « Nous pilerons le mil, » se dit-elle, joyeuse, « et de sa farine poudreuse, nous ferons des gâteaux pour l'élu de nos cœurs. » Le mil, en ce temps-là, n'était ni récolté, ni cuit en boule sous la cendre. L'idée plut fort à ses compagnes. Elles creusèrent des troncs d'arbres et préparèrent des pilons, nouèrent leurs boubous sur leurs reins indolents, et hop-tchac, 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 elles se mirent à piler le grain dans les creusets. « Comme mon pilon est léger, » dit la première au sein houleux, aux yeux illuminés. « Voyez le mien, » dit la deuxième, « il monte jusqu'au ciel et me revient en main tout trempé de rosée. » La troisième, exaltée, rieuse, émue aux larmes, lança le sien si haut qu'il traversa la peau de la voûte céleste et s'en alla frapper le Créateur au front. Le ciel, je vous l'ai dit, était en ce temps-là tout proche de la terre. Dieu, vexé, sursauta, se pencha par la brèche ouverte, les sourcils batailleurs et la bouche orageuse. Devant sa case, l'amante téméraire enfouit au creux des bras sa figure effrayée par le regard courroucé qui lui tombait dessus. « Ô femme, lui dit Dieu, je n'ai pas fait le ciel assez haut, ni la création assez secrète pour ton cœur impatient. Je ne te maudis pas car j'aime ta tendresse. Mais ta folie me trouble et je m'éloigne d'elle. Désormais, la terre vivra seule et connaîtra les larmes, la faim, la soif, le froid avec le chaud, le sel avec le miel. Les hommes peineront à chercher l'autre vie où je serai caché, à désirer toujours d'autres joies, d'autres femmes et d'autres horizons. » Et comme Dieu parlait ainsi, le bruit de ses paroles s'éloigna. Il ne fut plus bientôt qu'une rumeur indistincte dans le ciel de plus en plus haut. Et les femmes avec les hommes restèrent seules à chercher sans cesse le secret du bonheur. Mais l'amoureuse demeura bénie, bien que par elle nous soit venu le mal que nous avons à vivre. Car rien d'autre que la puissance de son amour ne sut faire dans le firmament la brèche jamais refermée par où le Père inaccessible ne peut s'empêcher de nous voir et de nous chérir, nous, ses enfants turbulents. L'oiseau. Madi, M-A-D-I, était le nom de cet homme. C'était un grand chasseur d'oiseaux. Il avait un fils, un seul fils. Sa femme l'avait mise au monde, puis elle avait quitté la vie. La maison de Madi était la dernière du village. Au-delà était la forêt. Chaque matin, Madi allait poser ses pièges, et chaque soir, il ramenait ses proies. Or, un jour, il dit à son fils, « J'ai mal aux yeux, j'ai mal aux membres. Garçon, va chercher le gibier. » Le garçon s'en alla dans la forêt. Il vit un oiseau blanc sous un arbre. Il était pris dans un lacet. Quand il voulut le délier, l'oiseau se mit à lui chanter. « Ne me prends pas, fils de Madi, c'est ton père qui doit le faire. Fils de Madi, je viens de loin, où est ton père ?» Le garçon recula, contempla tout craintif l'oiseau à voix humaine, puis s'en fut en courant et criant « Père, père !» À son père, il conta ce qui s'était passé. Tous deux se revinrent au bois, quand ils furent au pied de l'arbre, où l'oiseau, dans l'herbe, était pris. « Mon garçon, est-ce lui qui parle ?»« C'est lui, père. Prends-le. » Le père prit l'oiseau. Dès qu'ils furent chez eux, « Je vais faire du feu, » dit l'homme, « égorge-le. » L'enfant aiguisa son couteau sur la pierre du seuil, revint à l'oiseau blanc, l'empoigna par le cou. Alors l'oiseau chanta, « Ne me tue pas, fils de Madi, c'est ton père qui doit le faire. Fils de Madi, je viens de loin, où est ton père ?»« Père, père !» cria l'enfant, « viens égorger l'oiseau, ma main tremble !» Le père vint en ronchonnant. Il pensa que son fils était lâche, qu'il n'avait pas de cœur, que le sang l'effrayait. Il égorgea l'oiseau, le pluma, le vida, enfin le découpa,
Puis il dit au garçon, « Mets-le dans la marmite. Moi, je vais préparer la pâte des galettes. »
Dès que l'enfant eut rassemblé les morceaux de l'oiseau et part sur la table, « Ne me cuis pas, fils de Madi, c'est ton père qui doit le faire. Fils de Madi, je viens de loin. Où est ton père ?»
L'enfant cria, les larmes aux yeux,
« Père, père, il parle encore !»
Comme je suis seul, pense l'homme, sans aide dans ce monde étrange, sans amour, sans plaisir de lit.
Assis devant le feu, il fit cuire l'oiseau, puis il dit à son fils,
mangeons-le maintenant.
Il piqua son couteau dans la marmite. Quand le garçon voulut piquer aussi le sien, « Ne me mange pas, fils de Madi, c'est ton père qui doit le faire. »«
Je n'ai pas faim, dit l'enfant. »
L'homme mangea, et dans son ventre, l'oiseau reprit forme vivante, et par la bouche, il s'envola. L'homme se coucha sur sa litière de feuilles. Il avait mal au corps, aux membres. Il mourut à la nuit tombée. L'oiseau revint devant la porte. Fils de Madi, je viens de loin, où est ton père ?
L'enfant pleura.
Père, où es-tu ?
Le lendemain, à l'aube claire, il s'en alla par les chemins du monde.
Kotendimina. K-O-T-E-N-D-I-M-I-N-A. Il était une fois la femme d'un roi. En vérité, elle était femme plus que reine. Des 100 serviteurs qui veillaient sur elle, aucun n'avait le droit d'entrer aux cuisines. Elle seule préparait les repas de son époux, cuisait les viandes, rôtissait les galettes et tranchait les légumes dans la marmite. C'était là son bonheur. Mais dans ce bonheur simple, elle avait une peine. C'était de n'avoir pas d'enfant. Elle espéra longtemps. Une nuit, avant l'aube, elle sortit devant sa porte et les mains sur le ventre, elle dit aux étoiles, « Père et mère, vous qui connaissez Dieu, demandez-lui un fils pour votre fille. » Depuis la veille, ce fils était en elle, mais elle l'ignorait. Son nombril s'arrondit, son ventre se gonfla. Un soir, le roi revint fourbu et crotté de la chasse. « Fais chauffer de l'eau, je veux prendre un bain, » dit-il à son épouse. Elle mit sur le feu une grande bassine, monta sur la terrasse, emplit une baignoire au clair de lune et attendit son roi, mais son roi ne vint pas. Il s'était endormi au travers de son lit. À minuit, le tonnerre gronda. La femme ne bougea pas de sa place auprès de la baignoire. Quand la pluie lourde s'abattit, elle courba le dos, mais ne songea pas un instant à se mettre à l'abri. Et quand vint l'aube tiède, elle était toujours là, à veiller sur le bain de son homme. Le roi, de grand matin, bâilla, frotta ses yeux, monta sur la terrasse. Il vit sa femme assise, immobile, muette.
« Femme, que fais-tu là ?
Mon époux, je t'attends. »
Il se souvint alors du bain qu'il voulait prendre. Il s'agenouilla devant elle.
« Femme belle et fidèle, dit-il, toi qui es restée sous la rosée du soir et sous la pluie battante à espérer ma venue, sois à jamais honorée. Dieu fasse ton enfant fécond comme l'orage, fort comme le tonnerre et beau comme la foudre. »
À midi ce jour-là, elle accoucha d'un fils. On fit de grandes fêtes. 7 ans heureux passèrent. Puis le roi oublia la beauté de la reine. Il prit une autre épouse. De la nouvelle aimée, 2 garçons lui naquirent. Alors il oublia son premier-né, qu'il avait jusque-là élevé avec une affection vigilante. Il lui dit un matin, « Hors de ma vue, tu me salis les yeux. Va chez mes serviteurs, tu vivras avec eux. » Sa mère prit son fils par l'épaule et le mena dehors. « Mère, lui dit l'enfant, je veux la vérité. Ce roi est-il vraiment mon père ?
Il l'est, mon fils. Depuis que je suis femme, aucun homme sauf lui n'a couché dans mon lit. Ne te révolte pas contre ces injustices. Ce qu'il t'ordonnera, fais-le. Fais-le non point pour lui, mais pour nourrir ta force. Le garçon répondit, « Mère, j'obéirai. Mais désormais, mon nom sera Kotendimina, c'est-à-dire celui que rien ne fait souffrir. Ainsi le roi pourra me traiter comme un chien, je n'éprouverai ni douleur, ni haine. » Le lendemain matin, il revint au palais, s'en fut trouver son père et lui dit, « Roi, écoute ton fils. Mon nom n'est plus le tien. Kotendimina, tel est celui que j'ai choisi. Tu peux disposer de moi comme tu le voudras. Tu n'as plus le pouvoir de me faire pleurer. » « Tu serviras tes frères, lui répondit le roi. Tu tiendras leur maison. Tu nourriras leurs bêtes. » Et il en fut ainsi. Un jour, des messagers du royaume voisin vinrent à la cour annoncer ce qui suit. « Notre seigneur veut marier sa fille. Cependant, il exige avant de l'accorder que celui qui la veut dise le nom secret qu'elle tient dans son cœur. À celui qui trouvera seront donnés en outre 3 chariots d'or et la moitié des terres du pays. » Les deux frères cadets ordonnèrent aussitôt à Kotendimina de sceller leurs chevaux. Ils s'en allèrent, fringant sur leurs belles montures, poussant à coups de fouet devant eux leur frère aîné en sandales de corde. À l'heure de midi, ils firent halte au bord du chemin. « Va chercher de l'eau !» dit le troisième prince à Kotendimina. Alentour, aucun puits, ni ruisseau, ni rivière. Loin au-delà des hautes herbes était une forêt. Kotendimina y courut, s'enfonça dans l'ombre broussailleuse, flaira l'air, entendit sous les arbres le chant d'une source. Il la chercha, la découvrit. Au pied d'un roc moussu, elle sortait de terre, limpide, scintillante. Il s'accroupit au bord, emplit ses calebasses. Alors, de l'humus noir, sortit un serpent prodigieux. « Fils d'homme, qui es-tu ?» lui dit le monstre. Le garçon se nomma. « Fouille un peu sous le roc, » dit encore la bête. « Vois-tu ces ossements ? Ce sont les restes de mes derniers repas, 100 guerriers, pour le moins, qui espéraient me vaincre. »« Serpent, je suis venu sans armes, » répondit Kotendimina. « Fais donc ce que tu veux, je ne combattrai pas. » « Les hommes sont mauvais !» siffla l'énorme gueule entre ses dents pointues. « S'ils étaient simples et désarmés, je pourrais les aimer. Mais non, ils sont cruels, avides, arrogants. Ils veulent tout par force. »« Je ne veux que de l'eau, » dit Kotendimina. Le serpent remua sa longue tête plate, hésita, dit enfin. « Si tu partais d'ici sans une égratignure, « m'aiderais-tu ?»« Sur ma vie, je le jure. Écoute donc. Suis tes frères où ils vont. Laisse-les vanter leur mérite. On leur demandera de deviner le nom secret de la princesse. Ils ne sauront pas le dire et devront s'en aller, mais toi, tu resteras. Tu attendras la nuit. » Alors, devant le roi, tu lèveras la tête, tu désigneras l'étoile la plus vive, et le roi fera de toi son gendre. Je te rends là, fils d'homme, un grand service. En échange, je veux que tu m'apportes ici 7 pains blancs comme le ciel de l'aube. Le feras-tu ? Promis, dit Kotendimina. Il prit ses calebasses, sortit de la forêt, courut à ses frères et leur dit hors d'haleine, « Mes princes, voici de l'eau. »«
Il était temps, fainéant !» grondèrent les deux autres.
Ils burent, ordonnèrent rudement à leur aîné poussiéreux de marcher devant et reprirent la route. Le lendemain matin, ils entrèrent en ville.
300 candidats, nobles et fils de nobles, étaient aussi venus. Tous furent rassemblés sur la place publique, devant l'estrade où se tenait le roi, ses ministres, ses guerriers et ses femmes. Chacun vint devant eux, dit un mot à voix forte. Aucun ne sut trouver le nom que la princesse portait au secret de son cœur. Vint le soir, rouge et doux. Les frères dépités dirent « Allons-nous-en !»« Mes princes, patientez, dit Cotendimina. Je veux me présenter comme vous l'avez fait.
« Qu'espères-tu, pauvre fou ?» ricanèrent les autres. « Nous partons à l'instant. Si tu veux nous revoir, tu nous courras après. »
Les deux frères s'enfuirent. Cotendimina s'avança devant l'estrade. La nuit était venue. Les étoiles au ciel s'allumaient une à une. Il dit, le front levé, « Ton nom brille là-haut. Tu seras mon époux, » répondit la princesse. On fit 7 jours de noces. Au 8e matin, Cotendimina dit à son épouse, « Fais cuire 7 pains blancs. Nous partons en voyage. » Il salua les gens qui l'avaient accueilli.
« Mon fils, lui dit le roi, je vais bientôt mourir. Mon peuple attendra ton retour. Tu règneras sur lui. »
Et Cotendimina s'en alla avec sa femme, 1000 guerriers, des chevaux, des moutons, de l'or et des diamants, par pleine chartée. Ils parvinrent bientôt au bord du grand chemin où était la forêt au fond des hautes herbes. « Attendez-moi ici, dit Cotendimina. » Il courut vers les arbres, posa les 7 pains blancs contre le roc moussu et s'agenouilla au bord de la source. Il entendit bientôt.
« Tu es un homme de mémoire. »
La gueule du serpent se dressa devant lui.
« J'ai pour toi des nouvelles, dit encore la bête. Ton père est mort hier. Rentre chez toi, le peuple s'impatiente. Il a chassé tes frères et c'est toi qu'il réclame. Demain, on te sacrera roi.
Écoute maintenant. L'important, le voici. Quand chacun sera retiré dans sa maison, après la musique et les danses du couronnement, tu iras dans la chambre où dormira ta femme. Et d'un coup de couteau, tu trancheras sa gorge.
Moi, tu es mon épouse, dit Cotendimina.
Fais ce que je te dis, répondit le serpent. Va maintenant, va vite. Bondissant au travers des buissons et des herbes, il rejoignit le cortège. Sa femme était impatiente de le revoir. Elle lui prit la main. Il se détourna d'elle et gémit dans son cœur. Le lendemain matin, il entra dans sa ville. Sa mère le mena au trône du roi mort. « Ton père t'a traité durement, lui dit-elle. Mon fils, c'était par amour vrai. Il t'a appris la valeur de la vie, ses pièges, ses beautés, ses douleurs, ses miracles. » La nuit venue, chacun s'en retourna chez soi. Alors, à la porte de la chambre où était sa femme, Cotendimina dégaina son couteau. Il faisait noir, si noir qu'à peine il devina le lit sous la fenêtre. Il s'approcha, courbé comme s'il charriait sur ses épaules tous les fardeaux du monde. À tâtons, il palpa le visage endormi. Sur le cou palpitant, il appuya sa lame et d'un geste vif le trancha. Puis il alla s'asseoir, épuisé, dans un coin. Il pleura jusqu'à l'aube, le front dans ses mains. Comme le jour naissant traversait la pénombre. « Que fais-tu là ? » dit une voix aimée. Il releva la tête et vit son épouse penchée sur lui. Du lit sur le plancher, un flot de poudre d'or illuminait la chambre.
« Quoi, femme ? Tu n'as rien ?» dit Cotendimina.
Il lui toucha le cou. Il était lisse et tendre. « Tu sembles fatigué, lui dit-elle. Je vais faire chauffer une bassine d'eau. Je laverai ton corps. Puis, cette poudre d'or qui nous vient, Dieu sait d'où, nous la distribuerons aux pauvres. Ma femme, tout est bien, dit Cotendimina. Certes, il était fourbu, mais il ne s'endormit pas au travers de son lit. Il prit un bain délicieux sur la terrasse où était sa baignoire, et de ce jour, régna sur deux pays heureux. Le temps du sacrifice. Il était un berger familier de toujours du langage des bêtes. Ce que disaient ses bœufs, ses vaches, ses moutons, il l'entendait sans peine. Il arrivait aussi qu'il parle avec son chien. Tous deux s'aimaient d'affection forte. Où l'un allait, l'autre suivait. Or, un soir de chaleur, comme le vieux soleil à l'horizon lointain ramenait sur son lit ses couvertures rouges, l'homme et son compagnon, assis au frais devant leur porte, virent venir par les buissons secs de la brousse un de ces chiens errants qui disputent aux rats les eaux dans les ordures aux sorties des villages. Dès qu'il fut à portée de voix, ce vagabond tendit son long museau vers la maison tranquille et d'un aboiement bref. « Salut, chien de berger » dit-il. « Salut » répondit l'autre. Hé, n'as-tu pas envie de courir avec moi ? Un autre jour, peut-être. « Viens, nous irons hurler à la lune qui monte !» « Ce soir, je ne peux pas, dit le chien du berger. Je sens du feu qui couve. La maison de mon maître brûlera vers minuit. Il faut que je sois là. » Le berger pensa. Il plaisante, il s'amuse à me faire peur. Mais sait-on jamais? Nos vieux sages disent « Dieu veille sur toi, veille sur tes biens. » Il déménagea son lit, sa cuisine, ses habits de fête, ses menus trésors, ne laissa planter que les quatre murs et le toit de paille. Le ciel se couvrit, l'orage gronda, la foudre tomba, la maison brûla. L'homme balaya les cendres fumantes, retroussa ses manches et se construisit une autre demeure, plus belle et plus vaste. Passèrent 100 jours. Or, un matin doux, comme le soleil au fond du levant ouvrait grand son œil, le chien vagabond s'en revint rôder le long de l'enclos où les bêtes dormaient encore. Il flaira le vent, pissa contre un pieu, puis il appela « L'ami, es-tu là ?» Le chien du berger sortit dans la cour où son maître nu s'aspergeait d'eau fraîche au bord du puits. Il lui répondit « Salut, frère errant. Viendras-tu ce soir courir avec moi ? Je n'ai pas d'amis, personne avec qui faire un brin de route. Demain, si tu veux. Ce soir, impossible. » Depuis quelques jours, le vent pue la hyène. Il en viendra 20, peu avant minuit. Elles attaqueront l'enclos. Tous nos bœufs mourront, nos moutons aussi. Il faut que je reste auprès de mon maître. Le berger pensa. Si ce chien dit vrai, malheur sur moi. Tout au long du jour, il mena ses bêtes dans les solides bergeries du seigneur du village. À la nuit tombée, 20 hyènes se glissèrent d'ombre en ombre. Elles envahirent l'enclos désert, se firent les crocs sur des branches mortes et s'en retournèrent bredouilles en hurlant aux étoiles par les sentiers de la brousse. Fin de la première face de la 6e cassette. Henri Gougaud, L'arbre d'amour et de sagesse, page 245. La suite et fin du temps du sacrifice se trouve sur la 2e face de cette cassette. À tout de suite.